Tag, ou guten tag, hola, hello, good morning, buen dia, buongiorno, appréciez l'accent, bok, en croate dans le texte, 24 langues en Europe, et je ne vous parle pas en basque, kaixo.
De vive voix.
Pascal Paradou.
À la veille des élections européennes, une question, une seule, quelle est la langue de l'Europe, seul continent peut-être avec l'Afrique à être aussi riche en idiomes, à moins que la messe ne soit déjà dite en faveur de l'anglais. Mais disant cela, je vois déjà mon invité s'ébouriffer, sachant qu'il est par nature ébouriffant. Bonjour Dominique Bolton.
Bonjour, et en matière de cheveux, j'en ai beaucoup, c'est bien connu.
C'est bien connu. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste des sciences de la communication et directeur de la revue Hermès. Alors 24 langues pour une population d'un peu plus de 500 millions d'habitants. Habitants, si l'on ne compte que les pays membres de l'Union, ça reste quand même énorme.
Énorme. C'est la richesse la plus extraordinaire de l'Europe, alors que tout le monde considère évidemment que c'est un inconvénient. Alors, un, que l'anglais existe et qu'on paragouine tous 200 ou 150 ou 300 mots d'anglais, il n'y a aucun problème, il y a toujours une langue véhiculaire. Mais naturellement, l'enjeu de la mondialisation demain, si vous voulez, il relève d'une contradiction qui est simple. Avec la mondialisation des techniques, l'information, la communication, la radio, la télévision, Internet, tout va du côté de la standardisation. Et donc, on dit que l'anglais, c'est la voie de la communication. Et simultanément, cette mondialisation est en train de révéler que les peuples, les cultures vont se révolter contre cette rationalisation, cette standardisation, et que le respect de la diversité culturelle, dont la première condition, c'est la diversité linguistique, sera la condition de la paix de demain. Donc, nous, on est soi-disant en retard parce qu'on a plus de 20 langues, entre 24 et 26, 27, peu importe, alors qu'en fait, nous sommes le prototype de ce qu'il va falloir se faire dans le monde entier, c'est apprendre à cohabiter entre les langues.
24, 25, 26, 27, dites-vous, mais c'est sans compter les langues régionales, les patois et les langues des populations immigrées.
Bien sûr. Mais ce que vous disent tous les linguistes, tous les anthropologues, tous les ethnologues, c'est qu'il n'y a de richesse que la langue, que naturellement nous devons respecter constamment les langues maternelles, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde, on est en train de les massacrer, que le coût de la traduction n'est pas un coût financier très énorme, mais c'est un coût anthropologique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la traduction? Un traducteur, c'est un génie, c'est quelqu'un qui essaye de comprendre deux espaces mentaux différents et de faire le lien entre ces deux espaces mentaux. Eh bien, en Europe, nous sommes un cas de figure extraordinaire concernant le fait qu'il n'y aura jamais que de la cohabitation de langues, parce que les langues, c'est la culture, c'est la vision du passé, c'est la mémoire, c'est l'histoire. Il faudra accepter le temps de la traduction. Et si vous voulez, le conflit qu'on a, c'est la vitesse d'information avec les tuyaux et la lenteur de la communication. Mais c'est la condition de la paix. Si on ne ralentit pas, il y aura un conflit entre la vitesse et la performance des techniques et le fait que les peuples diront non. Donc si vous voulez sauvegarder la diversité linguistique, c'est la condition de la paix de demain.
Mais alors comment expliquer cette grande diversité linguistique en Europe? Parce que c'est un vieux continent finalement, l'Europe, et 24 langues, c'est énorme.
Oui, parce que toutes les vagues d'invasion sont venues buter sur l'océan. Tous les mouvements de population dans l'histoire sont venus là, ou sont restés, ou sont repartis. Les guerres ont tout mélangé, et nous sommes une richesse linguistique et culturelle exceptionnelle. D'ailleurs, la principale force de l'Union européenne, au fur et à mesure qu'on va aborder la question de la politique, ça va être de devoir gérer la question de la diversité culturelle. Mais on oublie qu'en 2005, il y a deux grandes dates essentielles. 45-48, la grande déclaration des droits de l'homme, et 2005, la grande déclaration de l'UNESCO sur le respect de la diversité culturelle et linguistique. Personne ne respecte ce texte de 2005, qui a été voté à l'unanimité, sauf les Américains, mais du point de vue de l'avenir de la planète, il est fondamental. Et si on ne sauve pas la diversité linguistique, eh bien, nous aurons des guerres, parce que dans un premier temps, il y a de la domination mondiale avec l'économie, mais on ne se tue pas pour des guerres économiques. Par contre, vous et moi, on est capable d'aller mourir pour la vision de Dieu, la langue, la mémoire, la représentation, l'histoire, la culture. Et plus nous allons dans un monde tout petit, dans le cadre de la mondialisation économique, plus les peuples voudront garder leur diversité culturelle et linguistique. Et si on ne les prend pas comme un enjeu politique, et qu'on dit oh, tout ça, ça sert à rien, c'est pas moderne, il faut être efficace, il faut être rationnel, eh bien nous aurons des guerres, comme on en a aujourd'hui des guerres à partir de la religion. Parce que les peuples ne voudront jamais abandonner leurs identités.
Vous êtes un peu Cassandre quand même en disant
cela. Pas Cassandre,
cela.
Au contraire, révolté, c'est-à-dire dire que on n'arrête pas de dire depuis trois siècles, depuis toujours, que la diversité linguistique c'est la condition de la diversité culturelle et donc de la richesse des peuples sur Terre. Et là, on est dans une espèce de folie de l'économie de la vitesse et du temps qui consiste à croire qu'on est moderne et intelligent si on fait de la vitesse de spéculation. Mais la vitesse de spéculation, c'est déjà ce qui est le plus critiquable, d'une part, et d'autre part, les hommes ne vivent pas au rythme des ordinateurs et des réseaux. Et quand ils croient qu'ils y vivent, eh ben ils vont s'apercevoir après que c'est pas possible. Donc il faut qu'on apprenne à cohabiter entre la vitesse de l'information et la lenteur de la communication. Et ça, c'est un enjeu politique.
Alors, on va raconter cette épopée des langues européennes, mais je vous propose d'abord, Dominique Bolton, de découvrir, d'écouter Bernard Lubat et André Mainviel. Chant de blé, chant de fête, chant de soif, chant de vin, chant de vie, chant de peu de choses, chant de l'eau, chant d'honneur, chant de course, chant de travail, chant d'abri, chant de circonstances, et quand que c'est quand, c'est quand que c'est quand. Chant de tir, chant de mine, chant cloné qui voudrait bien, chant de même mire, chant de mars, chant de friche fraîche, chant de nefle, chant de mes chaînes de langue, chant de conte, chant d'argent, chant d'amour d'ici dans le bar, d'Occitan parlant. Chant des bars d'ici, parler, par le rap, en verlan, parler bien avant, chant, on participe à citer. Chant des bars d'ici, parler, par le rap, en verlan, parler, par de là, par où, c'est partout, c'est par là. Quand c'est dans ce fou, tu chantes contre chant dans. Même si ça alors, d'abord dehors c'est l'arpentant de l'art. De l'art parlant, de l'art parlou et doux. C'est partout, c'est nous, c'est partoche. Dire l'autre, lire l'enracinement, lire entre lignes dures. À travers champ, traversant là tout bout de champ. Frein, rond, point, prendre du chantier par leur chantier. Par les sentiers, sentir les vents et les marécageux. Cache un chat en plein champ, manifestant chaque champ d'action de sa profondeur de champ, façon magnétique, sylvico-dentiste, astique, c'est par les champs parler, chansons peuplées parler, que nature est chante, combat les vents méchants, tranche en pire en pire, chant, rouge gorge, gorge, gorge chaude, pas de chanson, you, 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 non, pas de chanson, you, you. Canto Conte, Lubat Mainviel, du français aux accents occitans sur RFI pour De Vive Voix, avec une émission consacrée aujourd'hui aux langues européennes et notre invité, le chercheur Dominique Bolton. Alors, si on poursuit cet état des lieux, Dominique Bolton, des idiomes parlés sur le continent européen, il faut quand même reconnaître que l'anglais reste aujourd'hui encore la langue dominante. 38% de la population de l'Europe parle la langue de Theresa May, soit trois fois plus que le français.
Oui, mais la question n'est pas l'anglais. C'est tout à fait normal qu'il y ait une langue dominante qui est pratique pour tout le monde. La question,
une langue planétaire.
Bien sûr, mais c'est la question du statut des autres langues. Donc, en gros, l'anglais, c'est la modernité, le business et l'économie. D'accord. Et la langue française a un avantage incroyable, mais c'est vrai de toutes les langues romanes, c'est que la langue romane, elle porte d'autres valeurs. Nous portons les valeurs de liberté, de politique. Et pour le français, de l'amour en plus. Donc si vous voulez, la question théorique qui est posée, c'est pas l'anglais, c'est l'abandon des autres langues, l'abandon des langues maternelles. On est tous dans une telle folie de la rationalisation et de la standardisation qu'on déteste le temps perdu à parler les autres langues ou à faire de la traduction. Ah, donc il faut multiplier l'apprentissage des langues, ça c'est clair, il faut étendre très tôt deux, trois langues internationales, sauver les langues maternelles, ce qui est vital, et surtout avoir une vision simple que la vitesse de transmission des informations ne correspond jamais à la lenteur de la culture. Et donc, il faut admettre que le temps de la politique ne sera jamais le temps du business.
Alors, on parle d'Europe, on est en période électorale puisque l'essentiel des Européens vont voter ce week-end, dimanche. Les Anglais ont déjà commencé, d'ailleurs,
ce qui est formidable
aujourd'hui.
Comme symbole.
Hein, c'est formidable. ils partent, mais ils sont les premiers à voter.
Mais autre symbole invraisemblable, l'élection suffrage au Parlement, c'est quand même 30 ans. On n'est même pas foutus, les Européens, dans notre masochisme infernal, de voter tous le même jour. Vous vous rendez compte que la bêtise européenne fait qu'on n'est même pas capable. Ce symbole incroyable, on est quand même 500 millions, encore électoral 400, qui va voter. On pourrait au moins décider le même jour. Eh ben non, on y va en ordre dispersé. Dans l'ordre de l'unité de gérer des fiertés et des symboles, on est quand même par... Entre les fiertés LGBT, on devrait bien faire les fiertés européennes.
Alors, petite consolation quand même, le français est la langue étrangère en Europe la plus répandue, alors toujours après l'anglais, mais c'est quand même celle qui est le plus apprise, enseignée et aux côtés de l'allemand. Et d'ailleurs, ce sont ces trois langues, anglais, français, allemand, qui sont les langues de travail.
Et l'espagnol.
Et l'espagnol c'est du Conseil européen sûr, et de la communauté.
C'est les quatre, alors ça n'a jamais été mis dans les statuts, mais c'est les quatre langues de travail. Le problème, c'est que l'espagnol a diminué, et les Espagnols s'en fichent parce qu'ils sont dans la reconquête des États-Unis par l'Amérique latine. Les Allemands, hélas, se sont trop convertis à l'anglais. Et donc, du coup, on est dans une espèce de face-à-face un peu idiot entre le français et l'anglais. Et tout ce qui est moderne, entre guillemets, les technocrates, les financiers pensent qu'il faut parler anglais. Moi, ça ne me dérange pas de parler anglais. Le problème, c'est qu'il faut parler des autres langues. Je prends un exemple énorme. Les multinationales ou les chefs d'État, quand ils se rencontrent, ils n'arrêtent pas d'avoir des traducteurs. Parce qu'ils savent très bien qu'un mot, c'est un faux sens, et qu'on peut se disputer et c'est la guerre derrière. Donc, les chefs d'État et les chefs des multinationales, ils acceptent de communiquer avec des traducteurs, donc de perdre du temps. Et nous, dans l'idéologie moyenne de la mondialisation, on dit ça sert à rien, ça coûte trop cher, alors ça coûte pas cher, alors que c'est une intelligence exceptionnelle, la traduction. Donc, pourquoi les chefs d'État, qui sont quand même un peu occupés, pourquoi les patrons des multinationales recourent, et pourquoi, dans l'idéologie de la mondialisation, faut surtout pas parler autre chose que l'anglais?
De mon côté, je veux me faire un peu l'avocat du Parlement européen, où là, le multilinguisme est reconnu. C'est-à-dire que toutes les langues de l'Europe sont parlées au sein du Parlement européen. Donc là, on fait bien de l'écologie linguistique, si j'ose dire.
Mais le masochisme européen est fascinant. L'espace politique du Parlement, c'est l'espace démocratique le plus important de l'Europe, parce qu'on vote tous. Et vous avez tout à fait raison, ils respectent la diversité linguistique. Et les débats du Parlement sont très intéressants, et elles seront de plus en plus intéressantes au fur et à mesure que l'espace politique de cette institution grandira. Donc on peut très bien, de toute façon, il faut admettre qu'on ne pourra jamais passer par-dessus la diversité linguistique, parce que si on écrase la diversité linguistique, ça veut dire qu'on écrase demain la diversité culturelle.
Mais est-ce qu'il y a, à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup, est-ce qu'il y a des programmes d'éducation en faveur de toutes ces langues européennes et en faveur de l'intercompréhension? J'ai connaissance d'un jeu proposé par la DGLFLF, très récent d'ailleurs, qui s'appelle Romanica, et qui joue avec les 8 langues romanes, un petit peu comme moi au début de l'émission, pour dire bonjour, pof, 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 les mots arrivent et on doit les ranger.
Là, vous posez une superbe question, et c'est en ça qu'on retombe une fois de plus sur le masochisme européen, c'est que la force de l'Europe, c'est pas seulement la présence de la langue française, c'est la présence des langues romanes. 1 milliard de locuteurs. Nous sommes 1 milliard de locuteurs avec des langues aux racines latines, et elles sont comme par hasard très présentes en Europe. Donc il y a plein de choses à faire. Bien sûr qu'un Italien ne pense pas comme un Roumain, ni ne rêve comme un Français, etc. Mais nous avons cette familiarité des racines, et donc de l'histoire, de la culture. Donc il faut le faire, mais il faut aussi sauver les langues slaves, parce qu'elles sont un patrimoine incroyable. Il faut sauver l'arabe, qui fait évidemment partie de l'identité européenne. Enfin, je veux dire, l'Europe est le laboratoire de la question de la diversité linguistique. Et au lieu de dire c'est une force, on le met sous le tapis en disant on espère bien qu'on va finalement tous parler la même langue. Nous, en Europe, on peut résister, si vous voulez, à la standardisation, parce qu'on est une vieille culture, mais en Asie, en Afrique, en Amérique latine, ça suscitera de la révolte.
Si on reste sur les langues romanes, Dominique Volton, 8 langues sont des langues romanes. C'est quoi à l'origine? C'est le latin, tout simplement.
Vous savez,
c'est les langues du sud de l'Europe.
Oui, mais ce que j'ai dit, vous savez, j'ai passé un an avec le pape, j'ai fait un livre d'entretien avec lui, et dans une blague, je lui ai dit un jour,
vous avez parlé en latin?
Non, mais je lui dis, vous savez, n'abandonnez pas complètement le latin. Vous avez été très intelligent en 62 avec Vatican II d'autoriser toutes les langues du monde pour prier et chanter, mais gardez bien le latin, parce que le latin, c'est les langues romanes. Et donc, par conséquent, il était un peu surpris parce qu'il entendait, il n'a pas cette habitude, mais venant d'Amérique latine, il a très bien compris. Si vous voulez, les langues romanes, il y a quand même 500 millions de locuteurs en Amérique latine, puisque les langues indiennes ont été écrasées en bonne partie d'ailleurs par les églises, mais l'Amérique latine, c'est 500 millions d'habitants. Avec deux langues qui sont deux langues latines, portugais ou espagnol. Donc par conséquent, il y a une diversité incroyable. Et le problème, c'est pas que les langues romanes écrasent les autres, mais c'est comme elles sont porteuses de diversité. Si vous voulez, la force de l'Europe, c'est que nous, on a dominé le monde. On s'est fait partout battre, les Européens. Donc nous, les Européens, les Anglais, les Espagnols, les Allemands, les Français, etc., toutes les puissances coloniales, elles ont une qualité qu'elles ne réalisent pas, c'est qu'elles savent que l'autre est intelligent parce qu'il nous a battus. Et la question de l'autre, c'est la question de la diversité culturelle et linguistique. Donc dans la question de la mondialisation de demain, de se respecter un peu plus, d'être un peu moins arrogant et de pas s'imaginer que la modernité financière et technique va suffire, les Européens ont un atout dont ils n'ont même pas conscience. Et la traduction, si on voulait vraiment que la paix soit dans la mondialisation, moi je dis tout le temps, la première industrie du monde devrait être l'industrie de la traduction. Parce que c'est l'industrie de l'intelligence humaine qui essaie de faire des ponts entre des systèmes symboliques différents.
C'est Umberto Eco qui disait que la traduction était la langue de l'Europe. Vous avez parlé quelle langue avec le pape?
Alors, au début, ce coquin m'avait pas dit qu'il parlait français, donc je parlais en français au traducteur.
Vous parlez comme ça du pape, ce coquin?
Enfin, bref, je m'excuse, mais oui. Bon,
c'est fait, de toute façon, c'est voilà, on est en direct.
Enfin, c'est un grand homme, j'ai quand même, je veux dire, c'est un homme révoltés, en colère, libres, et on a qu'à voir les oppositions qui suscitent dans le monde pour comprendre qu'ils ne parlent pas la langue de bois. Et sur les migrants notamment, il dit arrêtez de... Nous sommes tous des fils de migrants, ce qui est vrai, et donc par conséquent, le premier devoir de l'humanité, c'est de respecter les migrants. On ne peut pas penser que son message soit pas... Mais en tout cas, j'ai compris qu'il comprenait le français au bout d'un moment, donc je lui parle en français, il me répond en français ou en italien, et si j'ai un trou, parce que mon italien n'est pas génial, je passe par le traducteur. Mais le fait de pouvoir lui parler directement en français, c'est pas mal, mais lui, il appartient à la langue romane. Sa première langue maternelle, c'est l'italien, parce que sa famille était italienne, immigrée depuis très peu de temps, et donc par conséquent, il a d'abord parlé en italien, et après en espagnol.
Alors si on reste sur la... Alors je sais pas comment ça s'appelle, la romanicité.
La romanité, ce
concept de locuteur qui parle ces langues romanes, est-ce que ça peut cohabiter, est-ce que ça doit et comment ça pourrait cohabiter avec la francophonie par exemple?
Mais oui, ben, la francophonie, c'est en gros entre 200 et 250 millions de locuteurs, la romanité c'est 1 milliard de locuteurs, c'est un élément essentiel. Mais si vous voulez, il n'y a pas que le français, il y a l'espagnol, le portugais, il y a toutes les déclinaisons. Et du coup, cette romanité, elle permet de dialoguer beaucoup plus avec l'arabe, parce qu'il y a plusieurs formes d'arabe, et l'arabe fait partie de l'identité européenne, parce que vous n'avez qu'à voir ce qu'a été l'Empire ottoman et avant. Et donc, par conséquent, il y a les langues romanes, il y a les langues arabes, et puis il y a aussi toutes les langues slaves. Et du coup, poser cette question-là, augmenter le nombre d'apprentissages des langues, ça c'est sûr. Il faudrait toujours sauver la langue maternelle. Des langues régionales ou nationales, ça dépend des pays. Et au minimum, sérieusement, 2 langues internationales. L'anglais, bien sûr, parce que c'est commode pour tout le monde, et puis une autre langue internationale. Donc, très tôt, les gosses, on devrait leur faire apprendre 4 langues.
Ça, c'est un programme pour tous les ministres de l'éducation à travers le monde.
Je
ne
comprends même pas que, l'ONU devrait le décider, l'UNESCO l'appliquer, et avec comme priorité derrière, le sauvegarder les langues régionales. Parce que si vous n'avez pas des mots pour dire les choses, vous n'avez plus que les coups à donner. Or, les mots, c'est les conditions de la paix et de la communication. Moi, je suis un chercheur qui travaille sur la communication, je n'ai pas d'illusion, on ne se comprend pas. L'incommunication, c'est l'horizon de la communication. Mais pour gérer l'incommunication, il faut avoir des mots. Si vous voulez, ce qui est scandaleux dans le capitalisme financier, dans cette espèce de vision stupide de la modernité et de la mondialisation, c'est qu'on écrase tout ce qui fait la force de la mondialisation, c'est-à-dire les diversités, les identités, les différences. Et contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, c'est pas de respecter les différences qui va faire du communautarisme, c'est l'inverse. Et si on respecte les différences, il n'y aura pas de communautarisme.
Dominique Volton, parlant d'Europe, je vous propose d'écouter Antoine Compagnon, qui est un grand spécialiste de littérature, qui a en 2000 prononcé à l'Université de tous les savoirs une conférence intitulée « La culture, langue commune de l'Europe ».
L'idée de culture, écrivait Paul Valéry, est pour nous dans une relation très ancienne avec l'idée d'Europe. La culture est la langue commune de l'Europe, affirmait l'historien Fernand Braudel. Si c'était à refaire, je commencerais par la culture, disait après coup Jean Monnet au sujet de la construction européenne. L'Europe sera culturelle ou ne sera pas, s'écrit aujourd'hui plus d'un Européen convaincu, en général un homme ou une femme politique, dans la péroraison d'un discours consacré jusque-là à la politique agricole ou économique ou monétaire commune. À l'autre bord, tout aussi nombreux sont ceux qui n'ont cessé de répéter, à l'instar de Julien Binda, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe, ou plus exactement une conscience de l'Europe, par-dessus la diversité de ses parties, n'a jamais existé, comme il existe une conscience des États-Unis au-dessus de la diversité des 48, aujourd'hui 50 États. La culture de l'Europe est donc essentielle. Selon les uns, elle n'est qu'un mot vide de sens d'après les autres.
Dominique Volton, essentiel ou mot vide de sens la culture en Europe?
Ah non, c'est pas. D'abord, il n'y a pas qu'en Europe qu'il y a de la culture. Hein. Il y en a en Asie, il y en a en Afrique, il y en a en Amérique latine. L'Europe n'a pas le monopole de la culture, mais c'est vrai qu'ayant conquis le monde, ayant eu les 3 monothéismes, il y a eu cette espèce d'immense mouvement d'émancipation à partir du XVIe siècle. C'est vrai que la conscience de la liberté, etc., fait que l'Europe est un des territoires où la position de la culture a joué un rôle essentiel. Mais moi, je pense qu'elle n'a pas le monopole de la culture, et justement que la culture de l'Europe, elle est d'admettre, ce qu'elle n'admet pas toujours, c'est que c'est très fort du côté des identités culturelles nationale, et c'est aussi très fort du côté des emprunts. Si vous voulez, ce bout de continent là, il est incroyable parce qu'il est à la fois traversé par des identités culturelles extrêmement fortes entre les Français, les Anglais, les Allemands, les Finlandais, etc. Et en même temps, on est des mélanges de toutes les autres cultures qui sont venues buter là. Et au lieu de dire c'est un inconvénient, non, c'est une force. Et d'autre part, puisqu'on est au moment des élections, moi j'ai une hypothèse optimiste sur l'Europe, c'est que je pense que même si les sondages disent ces choses, etc., de ça, je pense que dans l'infrastructure culturelle, d'un point de vue anthropologique, les peuples d'Europe savent très bien que c'est une immense aventure dans laquelle nous sommes. Nous sommes la plus grande aventure pacifique et démocratique de l'histoire du monde, l'Europe. Hein. On est d'accord sur rien, on n'a rien à se dire, on se déteste et on continue à tenir alors qu'on dit qu'on va s'effondrer tous les 5 ans. Donc par conséquent, l'Europe est intéressante pour le reste du monde parce que dans notre incommunication totale, les infrastructures culturelles, psychologiques, gens, même s'ils votent contre l'Europe, fait qu'ils savent bien quand même qu'au-delà de la puissance économique et financière, ce que représente l'Europe, c'est quelque chose du côté de la culture au sens large.
Mais vous qui êtes un expert en communication, Dominique Voltan, comment vous avez regardé cette campagne électorale qui s'achève, où, soit dit au passage, certains responsables de partis utilisent des anglicismes dans les grands débats, et à qui mieux mieux,
hein? À qui mieux mieux. De toute façon, la tragédie, c'est que tout le monde pense qu'on parle anglais, on est moderne et intelligent. C'est comme ceux qui pensent que si on est sur des tablettes, c'est qu'on est plus intelligent. Mmh. Pas du tout. Parce que, pour l'instant, la question d'identité culturelle en Europe n'est pas revenue. On la met sous le tapis. Parce qu'on pense qu'il faut surtout pas en parler. Parce qu'on pense que c'est communautariste, alors que c'est l'inverse.
Mais c'est un tabou. Ça n'intéresserait personne.
Oui, ben, c'est exactement comme l'Europe dans les médias. Quand je dis aux médias, vous devriez traiter plus souvent d'Europe parce que quand même, ça ferait rentrer une conscience. Les journalistes me répondent, mais ça n'intéresse personne. Et à quoi je réponds? Écoutez, le rôle d'un journaliste, c'est pas de satisfaire la demande. C'est très souvent de créer l'offre. Que ça intéresse ou pas, c'est un défi politique majeur, l'Europe. Elle n'est pas très bonne, la campagne. Mais le défi de l'Europe, il est formidable. C'est, nous n'avons pas les cadres mentaux pour penser cette révolution que nous faisons. Donc, du coup, nous habitons les mots habituels, les cadres culturels habituels, les langages habituels. Et évidemment, ça coince. Et donc, par conséquent, tout ce décalage ne me gêne pas. Parce qu'on ne fait pas l'histoire en 30 ans, ou en 40 ans, ou en 50 ans, ou en 60 ans. Mais on le dit, écoutez, regardons ce qu'on a fait de positif en 60 ans. Regardons nos échecs, on peut très bien parler des deux. Là, à ce moment-là, ça redonne l'espoir. Ce qui est tragique, si vous voulez, dans l'Europe, c'est qu'on ne donne pas espoir ni amour aux peuples de ce qu'ils ont fait. Parce que ce sont les peuples européens qui ont fait ça. Quand, par exemple, on s'aperçoit que l'Europe, c'est d'abord de la solidarité et que les budgets européens, ils ont permis aux pays pauvres de s'en sortir. Pourquoi on ne le dit pas tous les matins? Les limites de l'eurocratie ou la tyrannie de l'eurocratie, on peut en parler aussi. Donc finalement, on ne parle pas parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Mais c'est pas une raison pour s'imaginer que les sondages sont capables de révéler la profondeur du changement anthropologique. Moi, j'ai une vision des élections européennes, quel que soit le résultat, beaucoup plus optimiste. Le problème, c'est qu'on n'admet pas de ne pas avoir les mots pour penser ces réalités.
Et il faut peut-être aussi admettre qu'il y a de l'incommunication, puisque c'est le concept que vous avez inventé, Dominique Voltan.
J'ai fait un numéro d'Hermès qui s'appelle les incommunications européennes. Moi, je travaille sur la communication. C'est quoi? C'est donc, je travaille que sur l'incommunication. Les hommes ne se comprennent pas, les êtres humains, vous et moi, entre les trois moments. Le seul moment où on croit qu'on se comprend, c'est quand on est amoureux. Donc, faut que ça dure. Hétérosexuel ou homosexuel, on s'en fout. Mais ça dure pas longtemps. Au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on ne pense pas pareil. Et donc, tout le but de la vie dans les relations affectives, mais dans les relations familiales, dans les relations sociales, regardez RFI, France Info, ou dans la France, ou dans l'Europe, c'est de négocier. On est face à l'incommunication. Et pour pas se tuer, on se met à négocier. Donc, l'incommunication, oui, c'est l'horizon de la communication. Il n'y a pas de quoi être pessimiste. On se met à ce moment-là à négocier. Et la vie politique, la vie économique, la vie privée et de la vie publique, c'est on passe tout notre temps à affronter l'incommunication. Mais il faut le reconnaître. Si on croit qu'on va se comprendre, c'est là où on va se casser la figure. Et c'est là où je crie contre les systèmes d'information. Ils sont très bien, les internets et compagnie. Mais ils donnent l'illusion de croire que si on échange beaucoup d'informations, on se comprend bien. Ben, c'est pas vrai. Vous pouvez envoyer des messages à toute vitesse dans le monde entier. D'abord, quid des récepteurs, des cultures, des uns. Et deuxièmement, si vous répondez, vous n'allez pas vous comprendre. Donc, il faut admettre que la vitesse de l'information n'a rien à voir avec la lenteur de la communication. Et le jour où on comprend ça, c'est formidable. Et arrêtez de dévaloriser le concept de communication, parce que c'est la question de l'altérité de la communication. C'est comment je vais négocier avec vous, ou avec madame, ou avec un autre. Et c'est toute la grandeur de l'homme et des cultures.